réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Monsieur Denis Aïdoumbo, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Directeur et chef des services et contentieux au secrétariat général du ministère des Affaires foncières. Généralement, quand les gens vont acheter une parcelle, on va voir le chef coutumier, et voilà, et puis l'affaire est réglée, et puis on commence à construire. On revient 2-3 mois après pour visiter le terrain. Vous trouvez que quelqu'un d'autre a déjà déplacé les bornes et quelqu'un a déjà commencé une autre construction. Et voilà, c'est des conflits qui commencent, des conflits interminables. Alors, quelle est la meilleure ou, disons, la procédure qu'il faut suivre pour éviter tout cela, pour acheter légalement un terrain?
Merci beaucoup, comme tu viens à peine de le souligner.
Oui.
Une parcelle mal achetée, c'est un conflit pour nous. Et une parcelle qui est bien achetée, c'est moins de conflits pour le ministère des Affaires foncières. Et la procédure, la mienne, à suivre pour l'achat d'une parcelle à Kinshasa ou d'un lopé de terre, vous avez la latitude de vérifier si cette parcelle que je vais acheter se trouve dans un lotissement ou ne se trouve pas dans un lotissement. Si vous vous trouvez dans un lotissement, donc le lotissement c'est quoi? C'est l'espace du domaine public de l'État, du domaine privé de l'État, pardon, qui, les affaires foncières, ont la compétence de pouvoir le céder à des privés. Vous allez vérifier au niveau des affaires foncières si la personne qui se trouve devant vous est munie d'un contrat de location, s'il n'y a pas encore mise en valeur, ou soit est munie d'un certificat d'enregistrement, si la mise en valeur a déjà été acceptée par les services des affaires foncières, donc la mise en valeur a été jugée suffisante, on lui délivre un certificat d'enregistrement.
Et c'est quoi la mise en valeur?
La mise en valeur, dès qu'on vous donne un lopin de terre, vous commencez dans les 6 mois, donc on vous met, donc l'État met à votre disposition ce lopin de terre, vous avez l'obligation de pouvoir commencer la mise en valeur, donc d'y construire.
C'est ça, la mise en valeur.
La mise en valeur, c'est ça. Donc, la mise en valeur sera jugée suffisante par le géomètre du cadastre qui constate, compte tenu de la superficie vous cédez, il dit non, cette mise en valeur est suffisante. Donc, la maison qui est là a été construite dans les normes, en suivant les normes urbanistiques, en suivant donc toute la procédure de construction, et on vous délivre un certificat d'enregistrement. Ça, nous sommes dans un cas de lotissement pur et simple. Donc, vous irez vérifier au niveau du ministère des Affaires foncières si le monsieur a un contrat de location. Vous allez vérifier au niveau du bureau domaine. Donc, la circonscription a un bureau domaine qui s'occupe uniquement des contrats de location, qui gère en fait les domaines privés de l'État. C'est comme ça qu'on appelle ça bureau domaine. Vous allez vérifier là-bas. Donc, dans la circonscription, vous vérifiez si effectivement la personne qui veut vous vendre, c'est lui, les détenteurs et les détenteurs attitrés de ces contrats de location. Si nous nous trouvons dans un site non loti, donc il y a là, nous avons des aspects. Il y a des sites non lotis, mais qui sont cadastrés. Un site non loti cadastré, c'est comme vous venez de donner l'exemple du chef coutumier qui vous vend, malgré en principe, ils n'ont pas compétence de pouvoir céder le terrain, les autorités coutumières, mais avec une certaine complaisance, nous acceptons. C'est une réalité dans le périphérie de toutes les grandes agglomérations.
Mmh.
Vous prenez le lopin de terre, vous cédez par, entre guillemets, par le chef coutumier. Vous allez avec ça, vous prenez un géomètre du cadastre qui vient, qui mesure, qui fait le mesurage et bornage, qui borne le terrain et qui vous accorde un numéro cadastral. Vous suivez toute la démarche et vous obtenez un contrat de location. Vous n'êtes pas dans un lotissement, mais le terrain a été cadastré. Donc, au niveau du bureau documentation, au niveau du cadastre, on fait ce que nous appelons la mise à jour. Donc, les rattachements de quelque chose qui n'a pas été loti, mais on le fait, les rattachements. Donc, on donne un numéro cadastral. On le fait entrer dans le plan cadastral de la commune. À titre d'exemple, donc, un terrain, vous cédez au niveau des Mitendi par un droit coutumier. On vous donne un numéro cadastral, on fait les rattachements, donc la mise à jour du plan. Le terrain où vous obtenez les numéros cadastral entre directement dans le plan cadastral de la commune de Mongafula.
Oui.
Donc, si vous voulez quelqu'un qui est détenteur d'un tel contrat de location, si vous voulez vous le céder, donc vous pouvez aller vérifier au niveau du ministère des Affaires foncières, donc la circonscription de Mongafula. Vous allez trouver tous les renseignements là-bas. Et une fois sûr de tous ces renseignements, c'est à ce moment-là que vous pouvez bien vous engager. Mmh. Le ministère des Affaires foncières, nous ne garantissons rien sur des terrains où les chefs coutumiers sont en train de céder. Donc, les chefs coutumiers vous cèdent un terrain et des mois après, comme vous venez de le dire, des mois après, vous venez, vous trouvez une autre personne. Oui. Là, nous déclinons toute responsabilité là-dedans parce que on ne peut pas vous garantir quelque chose qu'on n'a pas été associé ni de près ni de loin.
Mais monsieur Dounia, mais pourquoi laisser ces chefs coutumiers continuer à céder les terrains alors que c'est source de conflits?
Bon, en principe, avec l'adoption de la loi foncière, toutes les terres en République démocratique du Congo sont domanialisées. Toutes les terres, j'ai dit donc. Donc, ce qui fait que le pouvoir, donc, les ayants droit coutumiers n'ont plus, en principe, compétence pour pouvoir céder les lopins de terre. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en quelque sorte quelque chose que et la population et les autorités ont consenti que la périphérie ici à Kinshasa, la périphérie dans Mongafula, c'est le Maluku, et donc on voit les autorités, les ayants droit coutumiers qui ont les droits de jouissance sur cette terre-là, sont en train de pouvoir les céder. Entre guillemets, donc
oui. Voilà, nous avons en ligne dans cette émission, les auditeurs appellent, ils ont des questions. Jules Onema nous appelle depuis Likasi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, on vous écoute, Jules.
Oui, j'aimerais poser une question. J'ai une préoccupation à adresser à l'invité du jour.
Oui.
Il y a deux fois où on achète un terrain à plus de deux agents du cadastre. C'est-à-dire, le même terrain, il y a deux agents qui vont à plusieurs personnes. C'est-à-dire, il y a un agent qui vend un terrain à tel monsieur, et le même terrain, là, il y a un autre agent qui vend à un autre monsieur. Alors, j'aimerais savoir ce conflit-là, comment est-ce qu'on peut le résoudre.
Voilà, merci beaucoup, M. Dounia.
Oui, je vais répondre à notre frère Gilles Onema qui appelle la partie délicacy. Mm-hmm. Donc, il y a un terrain qui est vendu par des agents
des affaires services
de cadastre. Oui. Les deux personnes qui ont acheté auprès de ces deux agents ont acheté ces lopins de terre sur base de quels documents? Voilà. Dès qu'il y a un terrain qui est créé dans les domaines privés de l'État, on accorde un numéro cadastral et on accorde un contrat de location. Il n'y a que donc un seul numéro et un seul titre. C'est à ces deux messieurs d'aller vérifier lequel de ces deux messieurs a été enregistré au niveau des affaires foncières. Parce que je ne cesse de vous le dire, monsieur le journaliste, il est difficile de tricher au ministère des Affaires foncières. Parce que oui, les seuls registres, donc les registres des numéros cadastraux est répertorié sur base. Donc un seul numéro ne peut pas être répertorié deux fois. C'est impossible. Donc au moins qu'il y ait tricherie. Oui. Et la tricherie finit toujours par être découverte. Donc on prend les numéros et les titres que les deux messieurs détiennent. Ils vont vérifier au niveau du bureau domaine si c'est un contrat de location ou si c'est un certificat d'enregistrement. Ils vont vérifier au bureau enregistrement et les propriétaires trouvera son véritable. Donc, les deux messieurs vont trouver à qui appartient ce terrain. Donc, ça, logiquement, ils vont le voir dans tous nos registres. Et celui qui a vendu, qui a vendu illégalement, a fait les Stéliona.
Voilà, mais si, par exemple, est-ce que l'État aussi, l'État lotit les terrains aujourd'hui? Parce que généralement, on croit que c'est toujours des chefs coutumiers qui vendent des terrains, qui cèdent les terrains, mais est-ce que l'État lui-même cède des terrains?
Oui, il y a des lotissements. Lorsque les lotissements, comment on arrive à créer un lotissement? Lorsque le conservateur des titres immobiliers reçoit toutes les demandes de terre. Parce que c'est lui qui est en contact direct avec la population.
Donc il faut remplir une demande de terre, une fiche.
Il faut remplir une demande de terre, il reçoit toutes les demandes de terre.
Et ces demandes, ces fiches, on peut les trouver où?
À chaque circonscription foncière, il y a des demandes de terre.
Il y a des demandes de terre.
Oui, il y a des demandes de terre, vous faites des demandes de terre. Le conservateur qui reçoit toutes ces demandes de terre fait rapport à la hiérarchie pour dire j'ai tellement de demandes de terre et il va voir avec, en collaboration avec son collègue de l'urbanisme, parce que c'est lui qui a le plan d'aménagement par rapport à toutes ces demandes-là, ils vont se concerter et en associant d'autres services, notamment le ministère de l'énergie, pour voir avec la régie des eaux et la SNEL, peut-être il y a eu des tuyaux ou des câbles.
Des câbles électriques, oui.
On va essayer un peu de voir. Et lorsque les normes voulues sont réunies, les services font rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministère de l'urbanisme pour les responsables de l'urbanisme et les conservateurs au niveau du ministre des Affaires foncières. Le ministre de l'urbanisme prend un arrêté faisant sortir ces terres-là du domaine public, là où les responsables ont pu projeter pour les lotissements, faisant sortir ces terres-là du domaine public de l'État en les mettant à la disposition du domaine privé qui est géré par le ministère des Affaires foncières. Le ministre des Affaires foncières crée maintenant, prend un arrêté créant les lotissements avec des numéros cadastraux parce que les chefs de division, donc les conservateurs et les chefs de division du cadastre, lorsqu'ils vont transmettre les propositions à la hiérarchie avec les projections, donc les numéros cadastraux, voilà, il y aura tel type de parcelles là-bas, il y aura autant de nombres de parcelles. Et dans l'arrêté portant création, on fixe aussi le prix pour permettre à la population, ceux qui ont pu remplir des demandes de terre, de pouvoir passer pour tout un chacun entre en possession de son lopin de terre.
Oui.
Et là maintenant, on va matérialiser le lotissement, donc c'est-à-dire on va borner et on va accorder des contrats de location. Là, nous sommes dans un lotissement qui a été créé légalement. Donc, il y a aussi ce que nous appelons des occupations anarchiques.
Voilà, on y revient. Le temps de recueillir la question de Blanchard Luana, de Prime Bandaka, juste après ceci.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Blanchard Luana, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ai une question à poser à l'invité. La question est celle-ci. En dehors des multiples différents documents qu'on donne à un acheteur qui voudrait acquérir un lopin, lesquels pourraient être tout d'abord exigés par celui qui voudrait acheter la parcelle? Et les documents qu'il doit exiger doivent contenir exactement quoi à l'intérieur là.
Merci, Monsieur Denis.
Oui, okay. Pour répondre à Blanchard, voilà. S'il veut acheter un terrain où il y a la mise en valeur n'est pas encore suffisante, donc on n'a pas encore accordé un certificat d'enregistrement, il n'a qu'à vérifier le contrat de location qui est là. À l'intérieur du contrat de location, il y a un croquis donc, qui renseigne donc, l'exactitude de la parcelle. Donc, donne les renseignements où est située la parcelle, sur quel plan cadastral, et il va les retrouver avec son numéro cadastral. Il va retrouver la parcelle. Si le monsieur a un certificat d'enregistrement, donc la mise en valeur a été jugée suffisante.
Oui.
Oui.
Ok, voilà, vous avez aussi parlé tout à l'heure de l'occupation illégale, mais avant cela, il y a des gens, quand tu viens acheter la parcelle, ils te donnent une fiche parcellaire, et peut-être, comment on appelle ça encore, un livret des logeurs.
Oui.
Alors, est-ce que c'est des documents qui sont fiables?
Oui. Avant l'entrée en vigueur de la loi foncière, il y avait des dispositions qui géraient les domaines privés de l'État. Et dans ces dispositions, les livrets des logeurs étaient considérés comme un titre faisant foi. Donc, quand quelqu'un a un titre... Donc, je peux te donner un exemple. Vous prenez la commune de Matete, la commune de Lemba, Bandalungwa. Ce sont des maisons qu'on appelle de type ONEL. Donc, c'était l'ONEL qui donnait ces maisons à ce que nous appelons location-vente. Mmh. Donc, vous êtes là locataire, l'ONEL vous met à votre disposition cette parcelle-là, vous louez, en même temps, vous êtes aussi acheteur. Mmh. Dès que vous terminez avec l'ONEL, vous mettez en toute légalité avec l'ONEL, l'ONEL vous donne donc l'attestation d'apirement. Donc, vous avez apiré votre dette vis-à-vis de l'ONEL avec un livret de logère et on vous demande de garder ces livrets de logière comme titre de propriété. On arrive en 73, la loi foncière arrive, il dit actuellement, avec l'entrée en vigueur de la loi foncière, mm-hmm. les seuls titres valables, c'est le certificat d'enregistrement. Les législateurs ont prévu les dispositions pour les détenteurs des livrets de logière, en leur demandant d'aller convertir leurs livrets de logière en certificat d'enregistrement. Mmh. Ce que vous avez suivi, on l'a fait de 2007 jusqu'en 2010. Donc, ce que nous avions appelé l'opération conversion. Parce qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que non, les populations qui détenaient les livrets de logière, c'était à l'État l'obligation de pouvoir les inciter mmh. à pouvoir convertir leurs livrets de logière en certificat d'enregistrement. Nous avons fait ça. Et récemment, nous venons de terminer pour la ville de Kinshasa. On va maintenant aller à l'intérieur du pays. Parce que les livrets de logière, à partir de l'entrée en vigueur de la loi foncière, n'ont plus cours légal.
Oui.
Donc, quand quelqu'un te présente une fiche parcellaire ou un livret de logière, mmh. pour nous, les ministères des Affaires foncières, nous ne pouvons pas vous garantir si le monsieur est propriétaire ou non.
Voilà, merci beaucoup. Nous avons en ligne Ignace Ndala, depuis Kolwezi, et M. Ali. Nous commençons avec Ignace. Bonjour.
Bonjour.
Alors, oui, c'est Ignace.
Ma préoccupation, c'est celle-ci. Hein?
Oui, Ignace.
Oui, j'ai dit que d'habitude, le dossier est traité d'abord au cadastre, le dossier d'un terrain. Alors, est-ce qu'on peut confirmer que tant que le dossier traîne encore au niveau du cadastre, avant qu'il soit transféré aux affaires foncières pour enregistrement, la personne n'est pas propriétaire pour autant du terrain?
Non, non, voilà. Il y a ceci. Dès que comment est-ce que nous pouvons dire que ce monsieur a un droit de devenir propriétaire? Donc, son dossier qui est au niveau du cadastre, il a acheté en bonne et due forme. Je pense que vous me suivez. Il a acheté en bonne et due forme, mais son dossier suit encore le cours normal pour l'établissement, pour l'enregistrement. Le monsieur est propriétaire de cette parcelle. Il est propriétaire de cette parcelle-là. Mais dès que maintenant on lui délivre les certificats d'enregistrement, donc on lui délivre un titre,
oui.
donc il devient le propriétaire attitré. Donc avant l'établissement du titre, il a le droit de devenir propriétaire. Il n'a qu'un droit de devenir propriétaire. Donc au niveau des affaires foncières, nous les mmh. considérons comme propriétaires parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un d'autre qui est venu se présenter
oui.
pour... réclamer cette propriété.
Oui.
Donc, il a encore le droit de devenir. Donc, nous considérons qu'il a encore le droit de devenir. Mais dès que nous lui délivrons les titres, c'est celui-là le propriétaire.
Voilà. Oui. Ali Jean Apanda, depuis Kinshasa. Bonjour.
Il y a une question là.
Oui, on vous écoute.
Mais je voulais savoir, si me dites un peu le règlement des conflits, à quelle valeur juridique?
Oui, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez du règlement des conflits?
Oui, oui, je pose à M. Dounia.
Mais nous parlons de la procédure pour acheter un terrain. Vous avez une question par rapport à ça?
Ah bon, c'est une intervention parce qu'il est là, il est du contentieux. Hein.
Oui.
Voilà, il y a au niveau des affaires, donc le règlement des conflits a un caractère, donc c'est le règlement qui fixe, qui dit, voilà, face à tel conflit, mmh. voilà la position du ministère des Affaires foncières. Donc, il y a trois autorités au niveau du ministère des Affaires foncières pour régler un conflit, donc le conflit. Il y a les conservateurs qui reçoivent les réclamations en premier lieu. Et lorsque les conservateurs ne les règlent, l'une des parties estime que non, le conservateur ne l'a pas bien réglé, il fait recours au directeur du contentieux que je suis. Lorsque l'autre partie aussi peut s'estimer que non, l'affaire n'a pas été bien réglée, il fait recours au ministre. Donc, il y a ces trois autorités qui ont compétence pour pouvoir régler les conflits au niveau des affaires. Donc, ça, c'est la position du ministère des Affaires foncières parce que c'est ce ministère-là qui gère le conflit en premier lieu. Si mmh. les partis estiment que non, le ministère des Affaires foncières n'a pas bien réglé, ils ont la latitude de saisir les cours et tribunaux. Mmh. Mais les cours et tribunaux, lorsque nous sommes dans une situation où le ministère des Affaires foncières a pu donner une position, ils ont obligation de pouvoir requérir les avis du ministère des Affaires foncières. Parce que là, c'est le ministère attitré qui a toutes les archives là-dedans. Parce que si c'est un conflit lié à un contrat de location, on peut recourir au bureau domaine. Si c'est un conflit lié à un certificat d'enregistrement, il y a le bureau d'enregistrement qui est là pour fournir aux trois autorités que je venais de vous citer tout à l'heure là, la position exacte à pouvoir donner.
Et si on prenait rendez-vous, juste pour vous agrémenter votre début d'après-midi, 5 jours par semaine pour parler culture, mais aussi femmes et bien-être. C'est tout simplement Métissage, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa.
Kyulu nous appelle depuis Kinshasa, bonjour.
C'est moi.
Oui, Kyulu, quelle est votre question?
Oui, je dis d'abord ma question, elle est de savoir. Vraiment, c'est pas vraiment comment la procédure d'acquérir un terrain. Monsieur l'invité du jour, est-ce que vous ne pouvez pas me dire, vous avez déjà votre terrain et que sur ce terrain vous avez déjà bâti il y a des années, mais vous avez interdit les gens qui avaient effectué les démarches pour avoir tous ces documents et que vous êtes propriétaire de la parcelle étant orphelin. Que devrez-vous faire pour vraiment récupérer un bénéfice qu'un document de base là qui pourra être votre justification, que par quelle maison ou à qui se confier, monsieur, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur Dunia.
Oui, je n'ai pas bien suivi la question.
Oui, Kyulu, est-ce que vous pouvez répondre la question?
Ça va, monsieur. En principe, vous avez déjà votre terrain que vous avez déjà acheté et sur laquelle vous avez déjà bâti une maison.
Oui.
Et il est arrivé maintenant que vous n'avez plus les personnes qui vous défendent au cas où il y arrivait un problème. Les personnes qui ont eu les documents, qui ont poursuivi les premières démarches, et ils ne sont plus, vous les avez plus. Maintenant, je veux savoir comment est-ce qu'il faut savoir, nous, les restaurants des enfants orphelins, perdant les papas et la maman qui savaient toutes les histoires de la maison.
Oui, Makulu.
Vraiment, où est-ce qu'on pourra nous confier pour avoir même les documents des bases là, justifiant vraiment, oui, cette parcelle appartenait à un de leurs pères, des choses comme ça.
Oui, Makulu, qui détient les documents parcellaires?
Les documents parcellaires, jusque-là, il n'y a personne qui en a. Il y avait une autre marate qui en avait.
Oui.
Bon, elle n'est plus là, nous, on ne sait pas comment faire.
Donc, vous estimez que les documents sont perdus, donc il n'y a plus de traces.
Il n'y a plus de traces.
Ok, monsieur Dunia, qu'est-ce qu'il peut faire?
Bon, si je comprends bien monsieur Kyulu, il s'agit d'une situation où la succession n'a plus aucun titre. Et maintenant, la succession, mais ce sont les parents qui occupaient, avec leurs enfants, qui occupaient cette parcelle-là, ou cette maison-là, des années, pendant de longues années. Lors de l'ouverture de la succession, certainement, on a eu à donc répertorier tous les biens laissés par les Dekuyus. Et si la parcelle a été répertoriée comme bien du Dekuyus, certainement, on a sur base de quelques documents. Et si au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un document entre les mains de la succession, voilà. La succession peut saisir le ministère des Affaires foncières. Là, maintenant, on aura à vérifier au niveau du ministère des Affaires foncières, donc le service du cadastre, va vérifier s'il y a un numéro cadastral sur cet emplacement et vérifier au niveau de la documentation les numéros cadastrales de cette parcelle correspondaient avec quel titre qui avait été établi à l'époque. Là, maintenant, la succession peut faire une demande de perte. On peut leur établir les duplicata de tous ces documents-là. Voilà. Mais si c'est un problème où cette parcelle n'a jamais été enregistrée par le ministère des Affaires foncières, donc il n'y a même pas un numéro cadastral, c'est là où commence le problème. Parce que sur base de quel document on peut dire que telle est propriété?
Parce qu'il a parlé d'une personne qui est allée avec les documents, une mère ou une marâtre, quelque chose comme ça.
Oui. S'il y a quelqu'un qui est allé avec les documents, vous pouvez bien les retrouver. Si c'était une parcelle enregistrée, cadastrée, vous pouvez bien retrouver tous les documents au niveau des affaires foncières parce que nous détenons toutes les archives.
Mais si vous faites des duplicata et la personne revient avec les originaux?
Non. Là, on va voir la demande de perte a été faite par quelle personne. Si c'est un problème de succession, on va voir dès qu'il y aura la succession a été ouverte et on reconnaît la succession, on reconnaît un comme liquidataire. c'est le liquidataire qui engage la succession. Donc, vous, vous venez avec les documents, même si ces documents-là sont les originaux, on va voir les noms qui se retrouvent dans ces originaux-là.
Oui.
Si votre nom n'est pas là, si c'était les noms de Dekouyous, donc du père...
Du défunt. Oui.
Donc, la succession a le plein droit de pouvoir réclamer cette parcelle. Et vous, vous n'avez pas droit. Vous pouvez détenir... Moi, je peux détenir votre certificat d'enregistrement, mais c'est en votre nom. Même un jour, si vous mourrez, je ne viendrai pas me prétendre être propriétaire de cette parcelle.
Voilà, donc, M. Kulou, rendez-vous, allez au bureau des affaires foncières de votre circonscription.
Oui, il n'a qu'à vérifier, il est dans quelle commune, pour pouvoir, nous pouvons l'orienter dans une circonscription foncière pour vérifier au niveau du cadastre si la parcelle est cadastrée. Là, maintenant, nous allons faire, nous allons tirer tous les plans et faire les, ce que je vous ai donné, je vous ai dit là, vérifier, faire les rattachements et faire sortir les numéros cadastrales de la parcelle où M. Kioul réside.
Voilà. Eraton Moukeni, depuis Oicha, en province orientale, bonjour.
Oui, bonjour, c'est à la province Nord-Kivu. C'est le Nord-Kivu.
Au Nord-Kivu, excusez-moi. Oui, allez-y. Oui.
Ok. Vraiment, je suis ravi de l'émission. Voici ma préoccupation.
Oui.
Oui. Je veux savoir la différence entre les contrats de location et les certificats d'enregistrement. Contrats de location et certificats d'enregistrement. Merci.
Ok. Monsieur Zunia.
Notre frère qui est au nord qui vous aimerait avoir la différence entre les contrats de location et les certificats d'enregistrement. Quand est-ce qu'on délivre un contrat de location? Lorsque le terrain est encore nu. On vous délivre un contrat de location.
Pour si vous n'avez pas encore construit.
Oui, si vous n'avez pas encore construit. Oui. L'État vous donne 3 ans pour mettre ce terrain en valeur. Vous disposez de 3 ans. Le bail est de 3 ans. Lorsque vous mettez le terrain en valeur, donc le cadastre juge effectivement que non, la mise en valeur ici est suffisante. On peut établir le titre. Donc l'État vous donne, si vous êtes Congolais, donc vous êtes national, l'État vous donne, vous signez avec l'État un contrat de concession perpétuel. Qui va, et le certificat d'enregistrement va s'en suivre. Donc, c'est le dernier titre de propriété en République démocratique du Congo. Donc, c'est le certificat d'enregistrement.
Voilà. Donc, le contrat de location, nous retenons, c'est lorsque vous avez acheté une parcelle qui n'est pas, vous n'avez pas encore mise en valeur, vous n'avez pas encore construit la maison. Là, vous avez un contrat de location qui a une durée de 3 ans.
Qui a une durée de 3 ans.
Après 3 ans.
3 ans, vous avez la possibilité de pouvoir les renouveler 2 ans. Donc, même si la mise en valeur n'est pas encore jugée suffisante par les cadastres, on peut renouveler. Vous construisez quelque chose, mais les cadastres estiment que non, par rapport à la superficie que vous concédez, la petite maisonnette que vous venez de construire là ne peut pas être considérée comme une mise en valeur suffisante. On vous accorde un autre contrat de location, maintenant avec durée de 2 ans. Mais vous avez l'obligation, de mettre en valeur ce terrain et d'avoir un contrat de concession perpétuel si vous êtes Congolais, et d'avoir un contrat de concession ordinaire si vous êtes étranger ou personne morale. Et par après, on va vous établir un certificat d'enregistrement qui est le dernier titre par excellence en République démocratique.
Et ce document est inattaquable.
Les documents, 2 ans après, si ça a été établi en bonne et due forme, 2 ans après, les documents deviennent inattaquables. Je vais insister.
Rapidement,
Les certificats d'enregistrement, l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement aujourd'hui, c'est quoi? Donc, c'est que 2 ans après, si le certificat d'enregistrement a été obtenu en bonne et due forme, l'administration foncière, 2 ans après, l'administration foncière n'a plus compétence de pouvoir l'annuler. Lorsque vous avez obtenu un certificat d'enregistrement, en trompant la vigilance des affaires foncières, des services du cadastre, on vous accorde un certificat d'enregistrement, 2 ans après, on attaque ce certificat, les affaires foncières, nous ne pouvons plus l'annuler, nous demandons à la personne qui fait recours contre votre certificat d'aller en justice, et dès que la justice estime effectivement vous l'avez obtenu par fraude ou vous l'avez obtenu par des voies qui sont illégales, on prend un jugement et on nous demande au niveau des affaires foncières de pouvoir annuler votre certificat d'enregistrement.
Voilà, Dunia Idumbo, directeur et chef des services des contentieux au secrétariat général du ministère des Affaires foncières. Nous vous disons merci et bon début de semaine.
Merci beaucoup.